Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message: Dieu est ma délivrance.
Solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Voilà que Dieu nous conduise et nous dirige dans cette méditation. Et c'est vrai, je voudrais quand même vous dire quelques mots de ce prophète, un grand prophète en Israël, c'est le prophète Jérémie. Alors on le connaît parce qu'il a écrit un livre qui est quand même monumental, et il y a, c'est vrai, certainement, eh bien, là, beaucoup de choses à dire sur les inspirations qu'il a reçues de Dieu dans un contexte qui était certainement très difficile, et puis la manière dont il a mis sa foi, eh bien, dans le Seigneur. La première chose que je voudrais préciser, c'est que dans l'approche de ce message, de ce texte, il faut prendre en considération que le prophète parle au peuple d'Israël, un peuple qui s'en va un peu de droite et de gauche, un peuple qui a perdu la foi, un peuple qui est malheureux de l'absence de Dieu, mais pour cause, un peuple qui s'est tourné vers des idoles, un peuple perdu, on pourrait dire. Et nous voyons que Dieu le charge de parler à Israël. Alors nous allons prendre ces paroles dans le contexte historique et puis nous allons les reporter aussi, parce que je crois que ce que disait le prophète hier, ça nous parle aussi à nous. Parce que nous sommes, eh bien, parfois dans des conditions qui sont des conditions de misère, des conditions de souffrance, et nous avons besoin que Dieu... Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler, parce qu'il a quelque chose à nous dire. Et nous savons que pour revenir à notre histoire, à la personne de Jérémie, eh bien, c'était un prophète que Dieu a appelé, il était tout jeune. D'ailleurs, quand Dieu va l'appeler, il va lui dire: « Mais je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce que tu veux que je dise à un peuple comme le tien, un peuple si nombreux? Moi, je ne suis qu'un enfant. » Alors, on a peut-être l'habitude d'écouter des adultes, des hommes sages, mais un enfant. Alors il se disait: bah, Seigneur, moi je ne sais pas parler, je ne sais rien faire et j'ai peur. Alors c'est vrai que annoncer, eh bien, le salut de Dieu ne doit pas nous faire peur, mais c'est redoutable finalement pour les réactions de ceux qui sont en face, parce que quelquefois ils n'ont pas peur de faire le mal. Et ça, c'est Jérémie. Et puis Jérémie a été toute sa vie durant vraiment un serviteur de Dieu, un prophète persécuté. On lui en a fait voir de toutes les couleurs. Il a dû annoncer des choses difficiles quand il a dit au peuple d'Israël: « Eh bien, vous allez être emmenés en déportation à cause de vos fautes. » Ça n'a pas été bien reçu. Hein. Et puis, à un moment donné, eh bien, on l'a emmené, on l'a traîné pour fuir les armées d'invasion. On l'a emmené en Égypte et il n'a pas eu le choix. On l'a descendu dans une citerne, on l'a laissé croupir pendant des jours et des jours. Enfin, vous lirez ça dans la parole de Dieu. Alors, c'est pour vous dire que c'est un homme qui a servi Dieu, et on l'a appelé le prophète en larmes. Ouais, on lui a donné ce surnom, le prophète en larmes. Et on comprend, parce que ce n'était pas pour lui-même, mais c'était pour l'amour qu'il avait pour le peuple de Dieu, pour le peuple d'Israël, et il a beaucoup, beaucoup souffert. Et dans notre texte que nous avons ouvert il y a un instant, il commence comme cela: Dieu, tu sais tout. Alors, c'est une introduction qui est très impressionnante, parce que c'est comme cela qu'il commence à parler: Dieu, ô Éternel, tu sais tout. Et cet après-midi, par le fait que nous soyons rassemblés dans ce lieu, eh bien moi je voudrais commencer comme le prophète en disant que Dieu sait tout. Voilà. Et ça peut être parfois inquiétant de savoir que Dieu sait tout. Mais c'est aussi rassurant parce que si nous avons besoin de lui, il n'a pas besoin de faire un diagnostic très long. Il n'a pas besoin de faire une auscultation de notre âme, de notre cœur et de notre existence. Il le sait. Et c'est bien pour ça qu'il nous parle. C'est pour ça que les choses ont été dites de cette manière. Alors, Seigneur, tu sais tout. Et c'est un cri. Souviens-toi de moi et ne m'oublie pas, Seigneur. Il y a naturellement derrière tout cela, eh bien, en effet, le cri, la douleur, le chagrin de cet homme. Seigneur, tu te souviens de moi, mais tu ne m'oublies pas parce que je ne saurais suffire à ce que j'ai à faire et puis à ma propre vie. Et comme je le disais il y a un instant, on a parlé qu'il était souvent persécuté. Alors il le dit maintenant, il dit « Venge-toi de mes persécuteurs, rétablis le bien, délivre-moi du mal. Il y a des gens qui en veulent à ma vie, il y a des gens qui voudraient me faire taire, il y a des gens qui sont hostiles à ce que je suis, à ce que je fais. Alors tu te portes à mon secours. Et Seigneur, tu fais vite. » C'est ce que nous comprenons ensuite. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres miséricordieux, parce que le temps que tu fasses miséricorde, les autres en profitent. Hein. Et c'est quelquefois un petit peu les choses avec lesquelles nous sommes confrontés, parce que on pourrait dire que le fer est au feu, et puis on dit, Seigneur, mais pourquoi tu laisses les choses? Pourquoi je me brûle? Pourquoi tu me laisses brûler? Pourquoi tu me laisses souffrir? Pourquoi tu me laisses dans le chagrin? Alors tu fais vivre. Oh, je sais que tu es miséricordieux, tu vas me faire miséricorde à moi, mais les autres... Ben, il joue sur ta miséricorde et il continue à faire du mal. Il continue à faire des choses qui sont iniques et injustes. Et le prophète, tout simplement, de dire et d'ajouter, mais tu sais si je souffre, mais c'est à cause de toi. Et c'est parce que tu m'as appelé. C'est parce que j'ai répondu à ton appel, parce que j'ai été docile, parce que je t'ai obéi, Seigneur. Alors, sache que je supporte l'opprobre, la honte, l'ignominie, mais c'est à cause de toi, c'est pas pour moi. Ça, c'est un petit peu les lamentations, vous comprenez? Et vous connaissez le livre, Les Lamentations de Jérémie. Eh bien voilà, vous les avez en condensé, parce qu'après, il a écrit un autre livre, que l'on a appelé le livre des Lamentations de Jérémie, que l'on suppose que ce soit Jérémie qui l'ait écrit, mais il y a de fortes chances que ce soit, eh bien, Jérémie. Toujours est-il qu'il parle à Dieu, et il commence à déclarer que Dieu, donc, sait tout. Et puis il lui dit, mais tu ne m'oublies pas dans la situation dans laquelle je suis. Je sais que tu es miséricordieux, mais n'attends pas trop longtemps, parce que moi, je vais disparaître. Et c'est à cause de toi, hein, que je souffre tout cela. Alors, il ajoute le prophète, il dit, mais tu sais, Seigneur, moi, en tant que serviteur, j'ai recueilli tes paroles. Il y a tant de gens qui sont autour de moi, et des gens de ton peuple, des gens d'Israël, qui entendent tes paroles, mais qui ne les recueillent pas, qui les jettent derrière leur dos. Alors moi, je voudrais te dire que vraiment, je les ai pris, j'ai été scrupuleux, j'ai été attentif, hein. J'ai été à l'écoute jour après jour, à chaque instant de tes paroles, je n'en ai laissé aucune à terre. Et il dira même, ça va beaucoup plus loin que Samuel, il dira, mais je les ai dévorées, tes paroles. Et dans un autre texte, il les a dit, mais tes paroles étaient pour moi comme du miel dans ma bouche. Et puis quand elles sont descendues dans mon cœur, elles ont été comme du fiel, comme de l'amertume. Eh oui, c'est ça ce que produit aussi la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est délicieuse. C'est suave, c'est bon pour le cœur, le corps, l'âme qui souffre. C'est merveilleux. C'est la bonne nouvelle. Et puis, à un moment donné, cette parole, eh bien, elle agit aussi, non pas pour nous tuer et nous empoisonner, mais elles sont difficiles. Elles provoquent une réaction de conscience, souvent, pour nous montrer, eh bien, qu'il y a des problèmes à régler. Et... je crois que Jérémie, en cette situation, se fait le porte-parole de ce que les hommes de son temps et de ce que les hommes de notre temps qui écoutent l'Évangile peuvent ressentir, ce que nous avons ressenti. C'est-à-dire que la parole de Dieu, à un moment donné, elle nous provoque. Dans la réalité de notre vie morale, de notre vie spirituelle, de notre vie morale en premier, parce qu'elle nous parle du péché, elle nous dit, mais tout ça, eh bien, c'est quelque chose qui va te tuer. Et c'est vrai que ça, c'est amer, mais il faut l'entendre, parce que quel est le médecin qui ne prescrit pas un médicament et on ne lui demande pas si le médicament il est bon au goût. Hein. On suppose que ce médicament, eh bien, il va me soigner, il va traiter mon mal et puis il va me guérir. Eh bien, c'est la même chose, la parole de Dieu, eh bien, Dieu la prescrit, il la donne, il l'administre et au bout d'un certain temps, après avoir peut-être senti que c'était quelque chose, une parole de douceur, eh bien, c'est une parole qui nous remue à l'intérieur de nous-mêmes. Et vous savez, elle doit produire cette parole, eh bien, d'abord une reconnaissance de notre misère, de notre perdition, que nous sommes perdus sans Dieu. Et puis cette parole, elle va provoquer la conscience de notre péché. Et de cette conscience va naître la repentance. Et de la repentance, il va nous falloir un guide. Il va nous falloir quelqu'un qui marche devant nous. C'est ce qu'on appelle la conversion à Jésus-Christ. On va le prendre et on va le choisir, Sauveur et Seigneur. Et puis, puisqu'il y a cette intimité, et puis que nous lui avons demandé de venir, avec ses paroles et la personne de Christ, eh bien, elle va produire un changement, une transformation. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Seigneur, envoie-nous des hommes et des femmes dans notre monde, dans notre ville, qui dévorent ta parole. On dévore toute autre chose que la parole de Dieu. C'est véritablement la dernière des préoccupations des hommes aujourd'hui. Oh, ils se nourrissent de toutes sortes de nourritures frelatées. Je ne suis pas là pour juger. Mais des choses qui sont vaines, des choses qui n'ont aucun intérêt, qui à leurs yeux semblent finalement de grandes révélations, alors que ce n'est rien du tout. Ce n'est rien, c'est du vent. Mais le monde a toujours marché avec l'illusion, en prenant le mensonge pour la vérité et vice-versa. Alors, il les a dévorés, il les a pris. Ça veut dire qu'il y avait une avidité, il y avait une faim. Vous savez, quand on dévore, on dit quelquefois à des enfants, quand ils arrivent de l'école, quand ils se mettent sur le goûter, ils n'ont pas seulement faim, mais ils dévorent. On les calme un peu parce qu'il y a encore le repas du soir. Il faut qu'ils laissent un peu de place. Mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose de très fort à ce moment-là. Je dévore parce que j'ai faim, parce que j'ai de grands besoins. Alors Seigneur, envoie-nous des Lydie, des Corneilles et tous ces gens de la Bible pour que vraiment, eh bien, quand ils vont entendre ta parole, ils aient faim. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. C'est ce que nous disions tout à l'heure, le miel. Parce que c'est une puissance qui réjouit. Et vous avez remarqué partout, il est question de l'évangile qui est prêché, le salut en Jésus-Christ. Je pense à Samarie, il nous est dit que quand Philippe a prêché l'évangile, il y eut une grande joie dans cette ville. Je ne sais pas ce qu'il y avait avant. Si, avant, on sait ce qu'il y avait. Il y avait un magicien, il y avait un occultiste, il y avait un trafiquant d'occulte. Mais il ne devait pas tellement réjouir les gens. Il devait les étonner par toutes sortes de fêtes, de la vapeur. Mais ça n'apportait pas la joie, mais la joie du cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel, Dieu des armées. Eh oui, Jérémie se replace tout simplement en tant que prophète, celui qui doit parler, et ça lui fait du bien et ça lui fait du mal. Et il doit continuer à parler. Et il dira, mais je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de me réjouir. C'était un homme qui avait su séparer les choses dans sa vie. Il était pour Dieu, il était entièrement pour Dieu. Ce n'était pas un homme dans lequel on trouvait de la fraude dans sa bouche. Ce n'était pas un homme où il y avait de l'eau amère et de l'eau sucrée. C'était la source pure. Et je crois que à partir du moment où on entend cette parole, eh bien, il y a des choses qui doivent finalement se manifester, se révéler dans notre vie. Et il savait faire la différence. On ne peut pas être assis entre deux chaises. Et il dit, mais les méchants, les moqueurs, eh bien, moi, ce n'est pas pour moi. Je me suis mis de côté, je me suis mis de ton côté, Seigneur, c'est pourquoi je souffre. Mais sache que, véritablement, je ne prends pas parti pour le mal. Dieu le savait, ça c'est certain. Mais c'est peut-être aussi une résolution que nous avons besoin de prendre lorsque nous entendons la parole de Dieu, de dire maintenant il faut que je choisisse. Je vais d'un côté ou je vais d'un autre, mais je ne peux pas être assis entre les deux. Et c'est une question de décision, de détermination. Vous savez que dans un psaume, il nous est dit à un moment donné, psaume ou proverbe, je ne me souviens plus, mais il est dit, Dieu dit, je hais les indécis. Il y a des gens qui ne savent jamais dire oui, qui ne savent jamais dire non. Ils ne savent pas. Dieu les appelle et ils disent, mais quand ils sont dans une réunion semblable à la nôtre, semblable aux réunions où l'évangile est prêché, quand ils sont là, ils disent « Oui, Seigneur, j'acquiesce ». Et puis une fois qu'ils ont franchi la porte, ils sont repris par toute l'atmosphère de l'extérieur. Alors il dit « Seigneur, tu vas attendre parce que je ne suis pas tout à fait prêt. C'est vrai que je t'ai dit que je faisais une promesse. C'est vrai que j'allais me décider, mais je suis sincère, j'étais sincère. » Mais le problème, c'est que la sincérité, elle doit s'accompagner d'actes et donner des preuves. Alors, nous voyons qu'il le dit et il prend position, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Ouais. Il n'a pas voulu faire les choses par lui-même, il n'a pas voulu les faire avec le conseil peut-être du monde dans lequel il était, et il n'était pas les conseils du temps de Jérémie, parmi les rois, parmi les grands, parmi tous les... parce qu'il y avait quand même tous ces hommes d'influence en Jérusalem et en Israël. Eh bien, lui, il a préféré se mettre à l'écart et de dire, eh bien, maintenant, je me tiens devant toi, Seigneur. c'est vers toi que je me tourne. C'est à toi que je vais chercher le conseil. Parce qu'on lui a donné des conseils à Jérémie. On lui a dit « tais-toi », parce que sa parole était embarrassante. On lui a dit toutes sortes de choses, et quand il ne voulait pas se taire, on l'a mis, comme je le disais tout à l'heure, pendant des jours et des jours, on l'a descendu avec des cordes au fond d'une citerne. Alors il n'y avait plus qu'une fenêtre, c'était en haut, une petite lueur, et il n'avait que ça pour vivre. Et la parole de Dieu, la Bible, nous dit qu'il pataugeait dans la boue, jour et nuit. Voilà, parce qu'il travaillait, parce qu'il servait Dieu, tout simplement. Mais il dit, mais à cause de ce que tu es, Seigneur, eh bien, je me suis assis solitaire. Et vous savez, asseoir solitairement ou s'asseoir en solitaire, ça évoque la prière. Il y a la prière en commun, naturellement, je ne l'oublie pas. Mais dans la détresse, dans le chagrin, dans la peine, à l'accomplissement de quelque chose que Dieu nous demande, ou lorsque nous prions pour quelqu'un d'être un être cher, ou lorsque nous avons tel ou tel souci ou tracas, le premier mouvement qu'un chrétien peut avoir, c'est de s'enfermer dans sa chambre, de se mettre à prier le Seigneur. Et Jésus nous dit que le Seigneur entend, il écoute. Hein. Et ça, c'est un réflexe. Et cette solitude, elle est faite, hein, non pas pour nous recroqueviller sur nous-mêmes en disant « qu'est-ce que je suis bien malheureux et je ne m'en sortirai pas ». Mais non, mais se mettre au conseil de Dieu, de pouvoir prier et de recevoir finalement en retour eh bien, tout ce que Dieu a à nous dire. La solitude, quelquefois la vie de foi, quelquefois notre engagement eh bien, nous amène à cette solitude. Parce que nous sommes coupés de tous les bruits, de toutes les distractions, de tout ce qui peut être, et c'est ce qu'il avait su faire, eh bien, Jérémie. Car tu me remplissais de fureur. De quelle fureur il s'agit ? Moi, je crois qu'il avait les sentiments de Dieu, dans la présence de Dieu, de voir un peuple privilégié comme Israël, galvaudé, souillé, dénaturé, déformé, l'héritage que Dieu avait donné à cette nation. Une parole qui était, eh bien, repoussée, où le crime se mélangeait à toutes sortes de choses, la cupidité, toutes sortes de choses abominables, et ça le remplissait. Finalement d'une irritation qui faisait que, eh bien, il pouvait dire, mais tu me remplissais de fureur, parce que je ne peux pas supporter de voir cela. Alors que les hommes pourraient être heureux, eh bien, ils font tout le contraire, ils t'abandonnent. C'est bien dans le livre de Jérémie qui est dit, que Dieu déclare que le peuple d'Israël, eh bien, qu'ils ont abandonné l'Éternel pour se creuser des citernes crevassées. Oui, vous avez abandonné la source d'eau, alors ça le remplissait de fureur. Jérémie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle, dira-t-il. Et c'est peut-être un questionnement que certains d'entre nous, eh bien, vous avez au fond de votre cœur. Pourquoi, Seigneur, ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je souffre jour et nuit? Pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu me laisses encore comme ça? Mais Seigneur, tu ne le vois pas? Tu ne comprends pas comment je souffre? Et tu en dois savoir pourquoi je souffre. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Alors ça, c'est le cri de tous les malheureux, de tous les souffrants, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral, de toute la terre, d'hier, mais d'aujourd'hui. Et il semblerait qu'Israël, lui, ne ressente pas la souffrance, dans l'aveuglement de son péché, de son mal, mais en tous les cas, le prophète, lui, il la ressent, cette souffrance. Et ceux qui devraient souffrir ne souffrent pas, et celui qui ne devrait pas souffrir, eh bien, souffre, parce qu'il porte la charge, il porte la vérité dans son cœur, et ça lui fait mal. Alors ma souffrance, alors ma plaie, et pourquoi finalement, eh bien, elle reste toujours béante et qu'il n'y a absolument pas de soulagement et d'apaisement. Il y en a un qui répondra beaucoup plus tard, un autre Jérémie, le grand Jérémie de l'histoire des hommes de cette terre. Il répondra, pourquoi ma souffrance? Pourquoi ma douleur? Il viendra avec ces mots que nous connaissons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui êtes écrasés par la douleur et la souffrance, alors venez à moi, et moi je vous donnerai du repos si vous croyez en moi. Ça, c'est les paroles que Jésus nous laisse. Ouais. L'autre Jérémie, le grand Jérémie, s'appelle Jésus, hein, vous l'aviez deviné, hein, et lui, il a la capacité, eh bien, de calmer notre douleur. Ce feu continuel, ce feu continu qui brûle nos os, qui nous détruit, qui ravage notre âme, qui nous amène à être confondus dans notre esprit parce que nous nous tuons à poser des questions ou à nous torturons, à essayer de trouver des réponses que nous n'avons pas. Comme Jésus le dira à Pierre, si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras bientôt. fais confiance, parce que ta cause est devant nous, devant lui, nous dit Job. Alors attends-le. Seigneur, comment veux-tu que j'attende? J'ai mal. Et quand on a mal, on est impatient. C'est logique, c'est naturel, c'est normal. Serais-tu, dit le prophète, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? En principe, quand on boit, quel que soit le breuvage, on ne se pose pas la question pour savoir s'il est bon ou mauvais. Si c'est du poison, si c'est de l'eau fraîche, de l'eau potable. Non, on ne se pose pas la question, parce que bon, on sait que c'est tout à fait normal. Si elle est mise à la consommation, c'est qu'on ne va pas avoir cette arrière-pensée de dire ouais, est-ce que c'est bon ou pas? On le boit. Mais lui, il en est arrivé, finalement, à cause de la situation d'Israël, à cause de sa propre souffrance pour les autres, eh bien, de dire, mais Seigneur, moi, je ne comprends plus. Il y a toujours, au terme de souffrance, ou dans la souffrance même, il y a toujours des questions que nous nous posons. Et c'est normal, c'est naturel, et je le dis encore. Et il pose la question à Dieu, mais est-ce que tu serais pour moi une source trompeuse? Est-ce que je me serais trompé, finalement, de mettre ma confiance en toi? Est-ce que je me suis égaré en pensant que Dieu pouvait faire quelque chose et qu'il ne peut rien faire? Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Ne renoncez jamais à faire confiance à Dieu, même si l'ennemi vous dit « tu te trompes ». Vous tenez bon. Et vous allez voir que le Seigneur, à un moment ou à un autre, il va chasser l'ennemi et il chassera le mal qui est avec le malin. Ça, c'est une chose importante. Tenez bon. On est tous passés par là d'une manière ou d'une autre, à différents degrés. Mais il y en a un qui nous dit « mais regarde, ton Dieu, il est silencieux, il n'entend rien. Regarde, il est sourd. Est-ce que tu crois que Dieu existe d'abord ?» Ça peut arriver même à des chrétiens de penser que Dieu, il est mort, ou Dieu, il est parti, puis que Dieu ne veut pas, et que Dieu nous juge, il nous condamne. On n'aurait pas toutes ces paroles de l'Évangile si c'était ça. Alors, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que toi, tu serais, moi, dans ma soif de vérité, ma soif de délivrance, ma soif de salut, est-ce que, à ce moment-là, tu m'aurais trompé, tu m'aurais trahi, tu ne serais pas une eau, ou tu serais une eau qui ne serait pas sûre, que je ne pourrais pas, sur laquelle je puisse m'appuyer? Alors le prophète, ce sont toutes ces considérations, toutes ces questions, et puis Dieu va lui parler à un moment donné. Parce qu'il y a toujours un moment ou un autre dans notre vie où Dieu nous répond. Oui, Dieu répond à celui qui l'interroge. Dieu répond à la foi de l'homme. Et Dieu va lui dire ceci, et elle est belle la réponse, pour ça que nous allons la partager ensemble. Elle est merveilleuse, elle nous encourage, elle nous donne des ailes, comme on le dit, des ailes de la foi. Alors vous n'avez pas fini, il y a 600 cantiques sur le recueil. Vous allez pouvoir chanter jour et nuit. Et Dieu lui dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi. Alors Jérémie parle pour les autres, c'est pour Israël, mais comme ça peut nous servir aussi. Dieu lui dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Belle parole. Si tu te rattaches à moi, ça voulait dire qu'en ce qui concerne Israël, ou en ce qui nous concerne, nous, les hommes, de notre temps, dans notre condition morale, dans notre condition, tout simplement, qui est la nôtre, excusez-moi l'expression, mais vous allez peut-être comprendre. Vous savez, en matière de circulation ferroviaire, il y a des voitures. Et il y a une locomotive, il y a une machine à tracter. Et je crois que beaucoup d'hommes ont décroché de la locomotive. Et oui, ils pensent qu'ils avancent, ils pensent qu'ils montent, mais ils descendent. Parce que vous avez vu un train, vous savez ce que c'est, vous voyez la composition. Mais quand il n'y a pas la traction, quand il n'y a pas l'attraction, quand il n'y a pas la force, quand il n'y a pas la puissance pour aller devant, pour avancer, eh bien les voitures restent sur place. C'est pourquoi vous allez faire un petit tour à la gare de Saint-Nazaire et vous allez voir qu'il y a toujours une locomotive devant les wagons. Extraordinaire. Et, passez-moi à l'expression, elle est peut-être simpliste, mais je ne voudrais pas qu'elle soit à vous choquer, mais moi je dis qu'il y a bien des lustres que les hommes ont décroché les wagons. Et ils disent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans notre monde. Il y a tant de choses, tant de gens qui sont en stationnement, qui sont sur le bord du quai. Ils voient les trains passer, puis ils ne montent jamais dedans. Des gens qui disent, mais ça ne réussit pas, dans les affaires, ça ne réussit pas, dans ma famille, dans mon couple, dans ma vie, dans mon propre épanouissement, ça ne marche pas. Alors l'homme s'est évertué à essayer de trouver des combines pour faire marcher. Alors il a trouvé la philosophie, il a trouvé la religion, il a trouvé ceci, etc., etc. Et il se dit, mais il faut que ça pousse, hein ? Et ça ne pousse pas. Parce qu'on s'aperçoit que du début jusqu'à la fin de la naissance à la mort, et à un moment donné, tout s'arrête. Il n'y a plus rien du tout. Si tu te raccroches à moi, si tu te rattache à moi. Donc, il y a quelque chose quand même qui est le lien entre une locomotive, en parlant des choses matérielles, et puis la première voiture. Il y a, finalement, et c'est solide, hein, vous avez vu, hein, moi je suis toujours impressionné, parce que ce sont quand même des... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas. Enfin, moi je ne suis pas un cheminot. Hein. Mais il y a quelque chose, c'est très serré. Et en plus, il y a des sécurités. Hein. Et il y a le courant qui passe, parce qu'il y a l'électricité qui passe d'une voiture à une autre, et puis il y a tout ça, et c'est généré par la locomotive. Eh bien, passez-moi l'expression, mais moi je dis que Dieu c'est lui qui nous traîne, c'est lui qui nous emmène. Et il sait où il nous emmène, dans la bonne direction, pas vers le bas mais vers le haut. Et c'est pour ça qu'il est dit, mais si tu te rattaches à moi, eh bien moi je te répondrai, j'aurai une communication avec toi, je te donnerai la vie, je te donnerai la joie, je te donnerai le souffle. Voilà, c'est ce qui est dit. Hein. Et tu te tiendras devant moi, pas derrière, pas en dessous, mais tu seras devant moi. Tu seras véritablement là, dans ma présence. Condition. Si tu te sépares de ce qui est précieux, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Il y avait la question d'un rattachement, mais après il y a la question d'une séparation. Parce que le train, quand il est trop chargé de choses inutiles, il ne roule pas. Ou il s'essouffle. Ça ne roule pas du tout. Alors il est question justement de faire le choix. De garder ce qui a de la valeur et de se séparer de ce qui n'en a pas. Et malheureusement, et on est bien placé pour le savoir, nous voyons des hommes et des femmes dans nos églises, dans les contacts que nous pouvons avoir, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont chargés ? Et ils sont même tellement chargés qu'ils sont écrasés. Hein. Écrasés par la dépression, écrasés par les dettes, écrasés par le désamour, écrasés par la méchanceté, écrasés par toutes sortes de choses, quelquefois la haine est dans leur cœur. Ils sont écrasés, tout simplement. Alors, on ne peut pas aller très loin avec tout ça. Et on ne peut pas donner de bonnes choses quand on est dans cette situation. Donc, il faut séparer. Il y a des choses précieuses, il y a des choses de valeur, il y a des principes dans la vie. Et puis, il y a après tout le reste. Mais le problème, c'est quand vous dites aux gens, bien, écoute, c'est inutile pour toi, ça te rend malade. C'est comme s'il y avait une nostalgie. Ils disent, mais moi, je ne peux pas m'en séparer, ce sont mes souvenirs. Alors, vous m'excusez, quand c'est des souvenirs de souffrance, on les laisse derrière. Hein. Parce que justement, le but de Dieu, c'est de nous enlever la souffrance, l'aiguillon de la souffrance, pour nous rendre heureux. Alors, si tu sais faire ça, tu seras comme ma bouche. Vous savez, c'est quelque chose de très important, hein, la bouche, hein, chez les humains. Quelque chose qui a une valeur. Hein. Premièrement, il y a la parole. Et puis, c'est fragile aussi. Hein. C'est comme la prunelle de l'œil, hein, en quelque sorte. Hein. Tu seras comme ma bouche. On protège hein, la bouche, comme le visage d'ailleurs. Hein. C'est une image qui est prise. Et dans le contexte historique, Dieu dira à Jérémie, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Parce que Jérémie avait prêché la parole, il avait prêché la repentance. Et à chaque fois qu'il prêchait la repentance, ils étaient encore plus méchants avec lui. Alors il dit, maintenant ça y est, hein. Voilà, tu as fait ce qu'il fallait, c'est à eux maintenant. Et c'est à eux de revenir à toi dans un esprit de supplication et de repentance. Hein. C'est comme ça que les choses marchent. Puis la fin du message, elle est tout aussi belle que ce que nous avons découvert. « Je te rendrai pour ce peuple comme une muraille d'airain. » Oui. Pour nous dire que quand Dieu nous appelle, et là ça revient aux enfants de Dieu, aux chrétiens, que la mission qui est la nôtre, la vocation que Dieu nous a dressée, le service que nous accomplissons pour le Seigneur, il y a des risques. Il y aura de la contestation, de la persécution, il y aura des moqueries, toutes sortes de choses, mais sache, parce que tu appartiens au Seigneur, parce que tu as déclaré Jésus comme ton sauveur personnel et le Seigneur de ta vie, eh bien moi je te dis que tes ennemis, le diable, qui a tout un arsenal pour te détruire, eh bien moi je te dis que même devant lui, même devant les autres, et devant tous les moyens qui pourront être déployés contre toi, les tsunamis, les tempêtes, et les tornades et tout ce que vous voulez, eh bien, moi, je te rendrai comme une muraille d'airain. Ce n'est pas eux qui vaincront. Ils n'auront pas finalement et bien le dessous. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et croyez bien que quand on a la foi, nous sommes disputés. Le diable fait tout pour nous faire tomber, nous ramener en arrière, nous faire adjurer notre foi. Mais une chose que nous devons savoir et bien nous remémorer, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, on le sait, ce sont des paroles que nous connaissons bien. Alors ils te feront la guerre de mille manières, parce qu'il n'y a pas qu'une façon pour le diable de faire la guerre. Il peut utiliser les hommes, il peut utiliser les circonstances de notre vie, il peut utiliser le mépris, il peut utiliser toutes sortes d'humiliations. Mais une chose qui est certaine, c'est que quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui peut t'atteindre, souviens-toi que Dieu t'a donné le bouclier de la foi, devant lequel et contre lequel vient s'éteindre tous les traits enflammés du malin. Souviens-toi que tu as le casque du salut, tu es sauvé. Souviens-toi qu'il t'a donné les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Souviens-toi qu'il t'a paré la poitrine, parce que c'est le cœur, hein, la poitrine. Hein, qu'il t'a paré de la cuirasse de la vérité. Et puis tu as quelque chose. C'est finalement, eh bien, la prière. Oui, l'arme de la prière, la parole de Dieu. Tu as tout cela. Alors ils te feront en guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont peut-être avoir l'illusion. Tu vas peut-être ployer quelquefois sous les coups parce que ça fait mal. Mais tu redresseras toujours la tête parce que tu n'es pas tout seul. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Seigneur, jusqu'à quand vais-je attendre ? Et le Seigneur nous répond, patience, je viens bientôt. Il nous répond, vous aurez toujours une réponse. Si vous vous attendez à lui, Dieu avait dit de dire à Moïse, au peuple d'Israël, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force, je me laisserai trouver par vous. » Et je n'ai jamais vu un frère ou une sœur, un chrétien, d'une manière ou d'une autre, et nous-mêmes nous y sommes passés, où nous avons prié de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, où Dieu est resté silencieux, à un moment donné, Dieu se lève et il nous déclare victorieux. Je te délivrerai, je serai avec toi, je te sauverai, je te délivrerai de la main des méchants, je te délivrerai de la main des violents. Et combien, quelquefois, le diable est violent. Ouais. Quelquefois, il nous fait hurler, crier, mais le Seigneur est vainqueur. Parce que vous savez, si le diable veut nous faire crier des cris de douleur, le Seigneur, quand il vient, il nous fait crier des cris de joie. Ça, c'est la victoire. C'est le triomphe des cris de joie. Et les cantiques que nous chantons, la joie de l'Éternel sera votre force. Alors, on ne bouge pas. On ne recule pas. On regarde à Jésus. Nous avons les yeux fixés sur lui. Quel beau message nous laisse Jérémie pour nous encourager. Parce que c'est encore d'actualité. Et nous savons qu'avec Dieu, eh bien, il est là et nous nous en sortirons. Nous lui remettons tout simplement nos souffrances et nos peines et nous allons prier maintenant, les uns et les autres, et que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous savons, Seigneur, que tu sais, tu connais, tu comprends toutes choses. Et des Jérémie, il y en a des milliers, des millions, Seigneur, dans ce monde, des hommes qui ont foi en toi, qui souffrent pour certains pour eux-mêmes, mais qui souffrent aussi pour les autres. Mais nous savons, Seigneur, que tu nous as fait des promesses extraordinaires. Oui, Seigneur, tu ferais de nous, eh bien, Père éternel, c'est vrai, Seigneur, ta bouche. Et si nous sommes ta bouche, c'est que nous pouvons confesser, Seigneur, que notre Dieu est vainqueur, que notre Dieu est grand, que notre Dieu est rempli de miséricorde, qu'il est glorieux, rempli de compassion et d'amour. Alors nous serons ta bouche et nous voulons te rendre grâce et toi tu es capable de transformer, Seigneur, sur nos lèvres, notre bouche, eh bien ces cris de douleur qui montent vers toi en cris d'allégresse et en cris de joie. Alors tu bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs, tu donnes ta grâce, Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus et tu fais un bien immense, Seigneur, à tous ceux et celles, Seigneur, qui espèrent en toi. Ô Seigneur, Nous sommes bien en deçà de la réalité, un bien immense. Mais c'est un bien, Seigneur, que nous ne pouvons ni en mesurer la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. C'est un bien éternel. Et nous te bénissons et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen.